Le pouvoir imaginaire, une série d'émissions enregistrées sur la grande scène du Théâtre de l'Odéon à Paris, en partenariat avec Philosophie Magazine. Aujourd'hui, la question du courage en politique. Où trouver la force de sacrifier sa petite vie à la liberté du monde? Invité Cynthia Fleury, à la lecture Marianne Bassler, Georges Kless, à la réalisation Rafik Zénine.
Au commencement est le courage. Contrairement à la lâcheté qui se donne toujours d'excellentes raisons, le courage est sans précédent. La décision radicale de ne pas vivre à genoux est une sagesse irréfléchie, pour le dire très simplement. Rien n'explique ni ne permet de prévoir le geste surnaturel de surmonter sa frayeur, de sauter en parachute, de frapper Goliath, de manger des betteraves, de cacher des juifs, de faire face en un mot quand tout porte à baisser les yeux. Être courageux, c'est agir comme tel. Et opposé à la tentation coupable et pourtant compréhensible de courber l'échine, le fiat inaugural d'une volonté sans cause. Car il n'y a pas de cause au courage, il n'y a que des occasions. Et il n'y a pas de courage proprement dit, mais seulement des actes courageux que rien ne justifie et dont la nature commune n'apparaît évidemment que rétrospectivement. Le courage est une grâce inexplicable et soudaine, une renaissance à soi-même et au monde où le déni s'estompe devant l'initiative. À cet égard, comme l'ignorent ceux qui le réduisent à l'orgueil, le courage n'est pas soluble dans le calcul. La sauvegarde de Troie ne suffit pas à justifier le sacrifice d'Hector. Et ce n'est pas parce qu'il espère la gloire qu'Achille est courageux, mais c'est parce qu'il est courageux qu'une gloire éternelle lui semble à sa portée. L'éventuelle représentation flatteuse ou héroïque que le courageux peut avoir de lui-même n'est ni suffisante ni nécessaire au courage. Réduire le courage à la bonne conscience ou à la vanité, c'est prendre les faits pour la cause. Comme l'écrit Cynthia Fleury, le courage est sans victoire, sinon sur soi-même. Si le courage admet la peur comme la joie reconnaît l'amertume, c'est qu'avant d'être un amour propre, le courage est un amour de soi. Preuve en est, et on va l'entendre, que, fût-ce sous les bombes ou la mitraille, le courage n'est jamais triste. Et de même qu'on ne fait jamais assez de bien, mais le mal une fois de trop, être courageux, ce n'est pas l'être une fois pour toutes. Écoutez Jean Kelevitch. Le courage, dit-il, est la patiente continuation du commencement. La courageuse fidélité prolonge l'instant incoatif, l'instant du début, au-delà du commencement proprement dit. Car le commencement n'est qu'un début, et l'enjeu du courage est d'être fidèle à ce caractère inaugural. Avoir du courage est une chose, ne pas le perdre en est une autre. Le courage n'est pas une essence, le courage c'est un caractère, c'est-à-dire une essence en péril. Le courage c'est une diète, un vaillant refus du désespoir, qui maintient le désir et étouffe sans relâche la tentation de ne penser qu'à soi. Il y a le courage de se jeter à l'eau, et celui de nager à contre-courant. Il y a le courage de résister à l'ennemi et celui d'assumer l'exercice du pouvoir après la victoire. Il y a le courage de mettre fin à ses jours. Et il y a le courage de continuer à vivre quand tout nous en dissuade. Il n'est de courage, en vérité, que le courage de vivre malgré la toute présence de l'existence et tous les motifs d'en finir. Avoir du courage, c'est apprendre à vivre, c'est-à-dire apprendre à mourir.
On juge, avec raison, que le courage est la première des qualités humaines, parce que c'est la qualité qui rend possible toutes les autres.
Nous prenons d'abord conscience de la liberté ou de son contraire dans le commerce avec d'autres. Avant de devenir un attribut de la pensée ou une qualité de la volonté, la liberté a été comprise comme le statut de l'homme libre, qui lui permettait de se déplacer, de sortir de son foyer, d'aller dans le monde et de rencontrer d'autres gens en actes et en paroles. Il est clair que pour être libre, l'homme devait s'être libéré des nécessités de la vie. Mais être libre exigeait aussi la compagnie d'autres hommes dont la situation était la même et demandait un espace public commun où les rencontrer. un monde politiquement organisé où chacun des hommes libres put s'insérer par la parole et par l'action. Seules les anciennes communautés politiques étaient fondées dans le but exprès de servir les hommes libres, ceux qui n'étaient ni esclaves, soumis à la contrainte par autrui, ni travailleurs, conduits et pressés par les nécessités de la vie. Quand il s'agit de la vie, toute action est sous l'emprise de la nécessité et le domaine propre pour s'occuper des nécessités de la vie est la gigantesque et toujours croissante sphère de la vie économique et sociale dont l'administration a éclipsé le domaine politique depuis le début des temps modernes. Mais en dépit de notre souci apparemment exclusif de la vie, nous continuons à tenir pour une évidence que le courage est, comme Churchill l'a nommé un jour, la première des qualités humaines et la vertu politique principale, car il est exigé de nous par la nature même du domaine public où le souci de la vie a perdu sa validité. Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu'en politique, ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu.
Dans cette crise, je répéterai devant la Chambre des communes ce que j'ai dit aux ministres qui ont rejoint ce gouvernement. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve des plus douloureuses. Nous avons devant nous de nombreux et longs mois de combat et de souffrance. Vous me demandez quelle est notre politique? Je réponds qu'elle est d'engager le combat sur terre, sur mer et dans les airs avec toute la puissance et la force que Dieu peut nous donner. Engager le combat contre une monstrueuse tyrannie sans égale dans les sombres et désolantes annales des atrocités humaines. Voilà notre politique. Vous me demandez quel est notre but? Je veux répondre en un mot, la victoire. La victoire à tout prix, la victoire en dépit de la terreur, la victoire aussi long et dur que puisse être le chemin qui nous y mènera, car sans victoire, il n'y a pas de survie. Pas de survie pour l'Empire britannique, pas de survie pour tout ce que l'Empire britannique a défendu, pas de survie pour l'ardeur, pour l'impulsion des siècles que l'humanité doit prolonger jusqu'à son but. J'assume ma tâche avec fermeté et espoir. Je suis convaincu que les hommes ne souffriront pas l'échec de notre cause. Je me sens le droit, en ce moment critique, d'invoquer le concours de tous et de dire « Venez, que nous avancions ensemble, avec notre force commune. »
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide. Pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment, et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée.
Cynthia Fleury, c'est une joie de prolonger avec vous ces politiques de la pensée. Bienvenue sur la grande scène de l'Odéon et bonjour. Alors vous êtes l'auteur de La fin du courage, entre autres ouvrages, c'est de celui-là que nous parlerons aujourd'hui, en tout cas c'est celui-là dont on va s'inspirer, c'est paru chez Fayard, c'est un très bon livre, je le dis sans crainte et en toute objectivité puisque nous sommes les meilleurs amis du monde dans le civil. Et c'est sous le double parrainage de Hannah Arendt, dont on a entendu un extrait là de la crise de la culture, et de Winston Churchill que nous avons placé cette rencontre autour de la question du courage. Et nous allons partir d'un problème. Avant d'examiner la phrase d'Arendt, les deux phrases d'Arendt, à mon avis cruciales pour entrer dans cette question qui est « Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu'en politique ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu. » Avant d'examiner cela, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots comment vous pensez et en cela en élève d'Arendt que vous êtes, d'une certaine façon, le basculement du courage individuelle, du courage d'un individu qui décide soudain de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser aller, de résister, de se redresser, de dire non, à une définition collective du courage, et en l'occurrence, guerrière et pour le bien.
C'est une des questions les plus difficiles parce que on a cité Jean Kalevitch dans le chapeau tout à l'heure, et Jean Kalevitch l'explique très bien. Il n'y a de courage qu'individuel, au sens où vous ne pouvez pas déléguer à autrui ce faire. Et donc c'est une théorie du sujet parce que précisément, cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Donc, d'une certaine manière, le courage s'arrête là, c'est-à-dire que il n'y a pas de mimétique, il n'y a pas de mimésis du courage. Et pourtant, c'est là, d'une certaine manière, une grâce, et puis en même temps, ce que les sociétés peuvent inventer demain, c'est-à-dire de créer l'écosystème qui permet l'émergence de ce courage, et que, précisément, on apprenne le courage. On apprend non seulement par soi-même, mais on apprend de l'autre, de l'exemplarité de l'autre, et il y a comme ça un continuum qui peut se mettre en place. Mais c'est quelque chose, d'une certaine manière, on peut tout faire pour amener ça, mais en dernière instance, et c'est ça où c'est intéressant, c'est que le courage n'est pas un commandement. C'est-à-dire que c'est une liberté du sujet. Et donc c'est très très important, si vous voulez, que la mimétique ne soit pas une obligation. On parlera tout à l'heure plus tard, mais vous avez, dit Foucault, un dire qui s'oblige, pas qui oblige les autres. Et donc, voilà, en dernière instance, l'éthique collective du courage est une création.
Mais ce commencement qui n'est pas un commandement et qu'on appelle le courage, vous avez parlé de Jean Kalevitch, voici les mots qu'il emploie pour qualifier le courage individuel. Il dit « victoire sur la lenteur et la terreur, chute redressée, géotropisme transformé en aérienne lévitation, fuite changée en assaut, le courage proteste contre les mouvements acquis de l'inerte nature par le geste absurde et hasardeux du sacrifice ». On peut le dire d'un individu comme on peut le dire d'une société.
Oui, tout à fait. On peut le. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce qu'il y a en partage et chez l'individu et la société, c'est cette vertu cardinale du courage. Arendt, dans le texte, dit « la première des qualités humaines ». Jean Kalevitch dira « la vertu cardinale ». Pourquoi ? Parce que c'est la vertu qui rend opérationnelle les autres vertus. C'est un mouvement. C'est pas une morale au sens d'un dogme, de quelque chose qui serait raconté avant nous. C'est quelque chose que nous racontons. Et précisément, c'est notre dynamique, c'est notre vitalité, mais c'est une vitalité d'abord mentale. C'est la pensée en acte.
La pensée en acte. Et Bergson disait qu'il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée.
Oui.
C'est la formule du courage ?
Oui, quand même.
Est-ce qu'on peut parler du courage comme d'un synonyme de la révolte, au sens où Camus pouvait dire « je me révolte », donc nous sommes dans l'homme révolté. Oui. Au sens où il situe la constitution d'une société à partir d'une décision individuelle.
Oui, alors on peut dire ça. Et on peut dire aussi, si vous voulez, que là aussi, en entrée de jeu, c'est plastique, le courage. Donc, c'est pas nécessairement, obligatoirement, la révolte. Ça peut être enduré, ça peut être se taire, ça peut être parfois dissimulé. Donc, c'est à chaque fois une invention du moment. Et c'est pour ça que c'est toujours une intelligence. C'est toujours une phronésis, au sens où c'est d'abord une intelligence, le courage. On en a fait quelque chose d'intempestif. Alors que c'est une intelligence de l'instant, de comprendre qu'est-ce qui se joue là, et surtout, comment on va faire pour que quelque chose se joue demain de meilleur, alors que l'on est simplement enfermé là, maintenant, tout de suite.
Vous avez parlé de phronésis, est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, c'est la prudence ?
Tout à fait.
Ça veut dire que d'une certaine manière, on peut penser le courage comme Aristote pensait la prudence. On peut s'en expliquer très simplement, la prudence étant pour Aristote de savoir ne pas vivre selon des valeurs absolues, considérant que les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure. La prudence, selon Aristote, c'est avoir le courage de ne pas se mettre soi-même sous la tutelle de valeurs absolues qui sont inadéquates au monde comme il va, au monde comme il devient. Est-ce qu'au fond, le courage consisterait, comme la prudence chez Aristote, à savoir naviguer à vue plutôt que de prétendre détenir l'horizon ?
Alors, très certainement. C'est d'ailleurs, les latinistes ont souvent traduit phronesis par prudentia. Et la phronesis, c'est tout sauf une morale qui serait effectivement dictée de façon qui nous précède. Et c'est pourtant, ça reste une affaire principielle. C'est-à-dire que pourtant, vous ne lâchez jamais vos principes. Donc il ne s'agit pas de dire c'est du pragmatique, tiens je vais lâcher mes principes, tiens je ne les lâche pas, etc. Non, il s'agit d'assumer ces principes. Et ces principes, c'est du lien avec le sens, ne pas faire le deuil du sens pour agir. C'est du lien avec l'avenir, donc préserver ce contact avec la temporalité qui va continuer après nous. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le sacrificiel, ou en tout cas pas dans le sacrificiel volontaire. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de poursuivre, c'est de vivre, et c'est le monde, comme disait Arendt. Hein, l'enjeu, c'est de continuer.
Camus encore, pour être un saint, il faut vivre.
Voilà, l'enjeu, c'est ne pas manquer le monde. L'enjeu, c'est, alors certes, le souci, pas nécessairement de la vie, le souci de la liberté. Si on prend en langage socratique, la vie qui vaut d'être vécue. Donc, lien avec l'avenir, lien avec le sens, lien avec les autres. Parce qu'effectivement, on peut être banni, d'abord, on peut faire risquer le délien, on verra ça tout à l'heure aussi dans un texte, vous l'entendrez, c'est celui qui est courageux, c'est celui qui risque le délien. Et là, de fait, dans le texte d'Arendt, où chacun des hommes libres put s'insérer par la parole et par l'action. On voit très bien que le courage, c'est le premier acte d'intégration dans le monde commun.
J'en reviens à la phrase, le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Quelle différence faut-il faire entre la vie et le monde ici? Est-ce que c'est tout simplement la différence qu'il faut faire entre l'égoïsme et la sollicitude, et le fait de penser à autrui avant de penser à soi?
Alors,
ou est-ce que c'est plus simple que ça encore?
Il pourrait y avoir une querelle des mots. Certains pourraient dire surtout pas le monde, parce que il y a une tutelle d'aliénation sociale avec cette idée du monde. Ça pourrait être le mondain. Et tout le monde, et on pourrait renverser la phrase et dire, mais non, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'élan naturel. Et ils auraient raison, ceux qui joueraient à renverser la phrase. Mais nous pouvons passer notre vie à ne pas vivre notre vie. Et ce notre vie, il faut comprendre que, bien évidemment, c'est la rencontre avec le monde. Donc c'est pas du tout quelque chose qui se situe simplement d'un dialogue un peu triste avec soi-même. Non. Nécessairement, c'est ce dialogue avec les autres, c'est le troisième lien. C'est pour ça que intelligare, affaire d'intelligence, affaire de faire des liens. Intelligare, ça veut dire faire du lien. Et faire du lien avec les autres, créer du nous. Voilà, sans cesse. Et c'est ça, faire monde, ne pas manquer le monde, ne pas manquer ce qui surgit, d'une certaine manière, ce qui va surgir demain. Et faire en sorte que, parce que c'est la phrase de tout à l'heure avec Jean Kelevitch sur la puissance de commencement,
parce que je veux dire, le monde ne nous a pas attendus. Hein.
Non.
C'était le courageux commence, mais il arrive dans un monde qui est déjà là. Donc il s'agit de commencer au sein d'un monde qui a déjà commencé. Je voudrais qu'on entende, coup sur coup, un texte de Foucault, donc extrait de ses derniers cours au Collège de France, puis un texte de Sénèque sur cette question justement de la parésia, qu'on pourrait peut-être traduire par le véridire, vous nous direz ce qu'il en est, après l'avoir entendu. Et en sortie d'ailleurs du texte sur Sénèque, vous entendrez aussi la voix d'un ancien président de la République qui parle beaucoup de courage, ou qui parlait beaucoup de courage ce jour-là. Écoutez tout ça.
La parésia, c'est étymologiquement l'activité qui consiste à tout dire, à dire toute la vérité. Il faut non seulement que cette vérité constitue bien l'opinion personnelle de celui qui parle, mais aussi qu'il la dise comme ce qu'il pense, et pas du bout des lèvres. Il faut en outre que le sujet, en disant cette vérité qu'il marque comme son opinion, sa pensée, sa croyance, prenne un certain risque. Risque qui concerne la relation même qu'il a avec celui auquel il s'adresse. Il faut, pour qu'il y ait parésia, qu'en disant la vérité, on instaure et on affronte le risque de blesser l'autre, de l'irriter, de le mettre en colère et de susciter de sa part des conduites qui peuvent aller jusqu'à la plus extrême violence. D'où ce nouveau trait de la parésia. Elle implique une certaine forme de courage, car pour dire la vérité, non seulement le parésiaste risque toujours de saper cette relation personnelle à l'autre qui est la condition de son discours, mais il peut arriver même qu'il soit amené à risquer sa propre vie. La parésia est donc, en deux mots, le courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, la vérité qu'il pense.
Ce sont les difficultés qui révèlent les hommes. Aussi, quand survient une difficulté, souviens-toi que Dieu, comme un maître de gymnase, t'a mis aux prises avec un jeune et rude partenaire. À quelle fin, demandes-tu ? Pour que tu deviennes champion aux Jeux Olympiques ? et on ne le devient pas sans suer. Voici que nous t'envoyons à Rome en éclaireur. Or, nul n'envoie un lâche comme éclaireur, pour que, au moindre bruit qu'il entend, à la plus petite ombre qu'il aperçoit, il accourt tout épouvanté nous dire que l'ennemi est déjà là. De même, dans le cas présent, si tu reviens nous dire, toi aussi, la situation à Rome est effrayante, la mort est redoutable, redoutable l'exil, redoutable la pauvreté, fuyez, homme, l'ennemi est là. Nous te répondrons, va-t'en, prophétise pour toi-même. Nous, nous n'avons commis qu'une faute, c'est d'avoir envoyé un pareil éclaireur. Diogène, qui a été envoyé comme toi en éclaireur, nous a rapporté de toute autre nouvelle. Il dit, la mort n'est pas un mal, car elle n'est pas un déshonneur. Il dit, la mauvaise opinion est un vain bruit que font des insensés. Et sur la peine, sur le plaisir, sur la pauvreté, quel discours nous a tenu cet éclaireur ? La nudité, dit-il, est préférable à toutes les robes de pourpre. Et encore, le sol nu pour dormir est la plus molle des couches. Et il rapporte, comme preuve de chacune de ses affirmations, son propre courage, son imperturbabilité, sa liberté, et avec cela, son corps resplendissant de force.
J'ai souvent réfléchi, depuis que nous sommes dans la bourrasque de la crise, et je ne trouve pas d'autre guide à l'action dans ces temps troublés que ces deux mots, vérité et courage. J'ai choisi de dire la vérité aux Français sur la gravité des événements que nous connaissons. C'est une épreuve, et en tant que telle, il faut l'affronter, il faut résister, il faut se battre. Il faut faire preuve de courage, il faut faire preuve de sang-froid. Le courage, c'est celui dont font preuve les Français tous les jours dans leur travail. Le courage, c'est celui avec lequel, mes chers compatriotes, vous avez accepté les réformes difficiles, comme la réforme des retraites. À l'occasion du sommet sur la crise, mercredi prochain, je dirai la vérité aux partenaires sociaux. Puis je parlerai aux Français à la fin du mois. Je leur dirai les décisions importantes qu'il nous faut prendre sans perdre de temps. Mes chers compatriotes, la crise peut être surmontée. C'est le courage qui donne la force d'agir. La France surmontera cette crise et elle en sortira plus forte. Et cette crise permettra de prendre des décisions rapidement. Il ne faut pas craindre l'avenir. Notre pays a des ressources. Notre pays a de la force. Courage et vérité. Il n'y a pas d'autre choix possible.
Michel Foucault, Épictète, Nicolas Sarkozy, aucun doute, vous êtes sur France Culture. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il dit, ce que Michel Foucault dit de la parésia, qui me semble fondamental et qui permet d'ailleurs de faire une distinction assez subtile entre les différents politiques. La parésia, dit-il, est en deux mots le courage de la vérité. Croire d'ailleurs que Henri Guénaud avait lu Michel Foucault, le courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense. Comment distinguer, dans le paysage politique, l'homme du véridire, le Churchill, celui qui promet du sang et des larmes, ce qui n'est pas très vendeur, à vrai dire, et l'homme du franc-parler, c'est-à-dire celui qui fait commerce, au fond, d'une franchise ostensible. D'abord, y a-t-il une différence entre les deux ? Et peut-on les distinguer comme on distinguerait presque le démocrate du démagogue ?
Alors, c'est vraiment la question. C'est vraiment la question, parce que il faut comprendre
Ou le politique de l'histrion.
Bien sûr. Mais c'est la question. Moi, je ne savais pas qu'on allait faire une émission comique. Bon. Alors.
Vous venez ici pour la première fois. La deuxième fois, vous serez plus habitué.
Alors, premier point. Une des grandes questions de la démocratie, c'est la désubstantialisation du langage. Très librement, la démocratie, c'est à la fois là où s'exprime le langage comme puissance d'émancipation, bien sûr, et puis c'est là où s'exprime librement un usage sophistique de la parole. C'est-à-dire, j'utilise la parole, non pas du tout pour vous émanciper, cette question ne m'intéresse absolument pas, mais
pour vous plaire.
Pour vous plaire, sous-entendu, pour qu'à la fin, vous fassiez quelque chose que je désire, moi. Et donc, très souvent, pour faire la différence entre un dire parésiastique, donc
un véridire.
Un véridire, plutôt qu'un dire vrai, parce que c'est vrai que le dire vrai est tellement mangé par la communication politique. Et puis une instrumentation du courage. Il faut voir derrière, précisément, s'il y a ce vrai risque de ne pas plaire. Très souvent, on joue à tenter de ne pas plaire, tout en sachant que tout va bien. À la fin, on va récolter le butin.
Mais il faut au moins la guerre pour ça. Churchill n'a aucun doute, en promettant du sang et des larmes, d'être reconnu comme un héros européen.
Alors, il y a différentes choses. Il y a effectivement le contexte.
La guerre ou la crise, enfin, je veux dire, il faut une adversité objective.
Donc, il y a une adversité objective. Il y a une éloquence aussi. On se rend compte que ce pacte avec la parole en démocratie, c'est aussi un pacte avec l'éloquence. Et pas simplement avec le slogan, mais avec l'éloquence. C'est-à-dire, c'est cette parole qui nous porte, qui nous rassemble, qui vient nous nourrir. Et ça, c'est tout à fait important. C'est pas simple, puisque le jeu communicationnel de la politique, ça va être de vider de leur substance à peu près tous les items. Là, on a entendu courage, mais on a entendu aussi vérité. Ils vident, bien sûr, la substance de vérité. Le vivre ensemble. Donc, tout le discours électoraliste, c'est-à-dire non pas qui vise le temps long, mais qui est soumis à une sanction du temps présent, très souvent instrumente, désubstantialise, crée une novlangue, et c'est très dur, parce que ça crée en plus un désaveu très très profond de la part des citoyens qui disent « mais alors on ne sait plus ».
Mais justement, comment est-ce qu'on donne à un citoyen les moyens de faire la différence entre un orateur et le tribun de la plèbe ? Entre le démagogue et le démocrate.
Sincèrement, il n'y a pas de solution. Ça serait fantastique de faire la séparation comme ça entre le démagogue et le démocrate. Et il y a d'autant moins de séparation, si vous voulez, que chaque démocrate, un jour ou l'autre, est un peu démagogue. Parce que ça va, on connaît tous le 4 heures de l'après-midi, on a le droit aussi de se reposer. Donc l'enjeu n'est pas tellement ça. L'enjeu, c'est de donner à chacun, à un moment donné, la possibilité de ne pas se faire voler le langage. Et donc, effectivement, l'état de droit, la démocratie n'est pas un lieu où mentir est interdit. Non. Voilà. En revanche, dans l'espace de la démocratie, il est possible, à la différence d'autres endroits, de déceler le mensonge. Et au minimum, de lui faire un sort, de le ridiculiser, par exemple, soit de lui offrir des contre-arguments, soit magistral, d'offrir une alternative et de prendre soi-même la parole ou d'écouter quelqu'un qui prend la parole et on se sent davantage représenté par lui.
On va entendre tout de suite alors une série de textes, on va entendre un peu de Hannah Arendt qui parle de la peur, un peu de Homer qui donne la parole à Achille et puis un dialogue entre Nicias et Laques. Le Laques de Platon est un dialogue mal connu, indûment mal connu d'ailleurs, c'est un dialogue sur le courage, c'est un dialogue dont il est important de dire qu'il appartient à la famille platonicienne des dialogues aporétiques, c'est-à-dire des dialogues qui ne se terminent pas par une solution, dont l'épilogue n'est pas une solution, mais une impasse. Il n'est pas innocent que ce soit autour de la question du courage que cette question se pose. Hannah Arendt a dit « Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde ». Platon, d'une certaine façon, vante le fait ou la possibilité en tout homme de préférer la gloire à la vie. Arendt, Homère, puis Nicias et Laques qui discutent. Georges Claes, Marianne Bassler.
La peur est une émotion indispensable à la conservation. Elle signale le danger et sans cette mise en garde sensorielle, aucun être vivant ne durerait bien longtemps. L'homme courageux n'est pas quelqu'un dont l'âme est dépourvue de cette émotion ou qui ne saurait la dominer une fois pour toutes, mais un être qui a décidé que ce n'est pas le spectacle de la peur qu'il veut donner.
Ma mère, la déesse Thétis aux pieds d'argent, me dit que des génies funestes de deux sortes m'emportent vers la mort, vers ma fin. Si je reste ici à combattre autour de la ville des Troyens, c'en est fait pour moi du retour. Mais ma gloire sera immortelle. Si je retourne en ma maison, sur la terre de ma patrie, c'en est fait pour moi de la noble gloire. Mais ma vie sera longue et ce n'est pas de sitôt que la faim, la mort m'atteindra.
Il me semble, depuis un moment, Laques, que tu ne définis pas comme il convient le courage. Je t'ai souvent entendu dire que chacun de nous est bon dans les choses où il est savant et mauvais dans celles où il est ignorant. Or, si l'homme courageux est bon, il est évident qu'il est savant. Cette science est celle des choses qu'il faut craindre et des choses qu'il faut oser, soit à la guerre, soit partout ailleurs.
Voilà une définition bien absurde, Nicias. Ce qui me fait dire cela, c'est qu'il y a une différence certaine entre la science et le courage. Il me semble que le courage n'est pas une science, mais une sorte de fermeté d'âme, celle de l'homme qui est déterminé à faire tête à l'ennemi en gardant son rang sans prendre la fuite. Sois sûr que celui-ci est un homme courageux. Ce que tu dis n'a donc pas de sens. Dans les maladies, par exemple, n'est-ce pas le médecin qui connaît ce qui est à craindre ? Ou crois-tu que les hommes courageux le connaissent ? Ou prends-tu les médecins pour des hommes courageux ?
Pas du tout.
Ni les agriculteurs, je pense. Cependant, ils connaissent certainement ce qui est à craindre dans le métier d'agriculteur. Il en est de même de tous les autres artisans. Ils savent ce qu'il faut craindre et sur quoi ils peuvent compter dans leur métier. Mais ils n'en sont pas plus braves pour cela.
Ta critique a du sens, mais elle n'est pas juste. Tu t'imagines que les médecins savent autre chose que de reconnaître dans leurs clients ce qui est sain et ce qui est malade. Or, leur science ne va pas plus loin. Mais si la santé est plus à craindre pour tel malade que la maladie, crois-tu la caisse que les médecins le savent ? Ne penses-tu pas qu'il vaudrait mieux pour beaucoup ne pas se relever de leur maladie que de s'en relever ? Réponds-moi, crois-tu qu'il soit toujours avantageux de vivre et que dans bien des cas, il ne soit pas préférable d'être mort ?
Il y a des cas, je le reconnais, où ce serait préférable.
Et ceux pour qui la mort serait un gain, crois-tu qu'ils aient à craindre les mêmes choses que ceux qui ont intérêt à vivre ?
Non.
Mais cette distinction, à qui accordes-tu le pouvoir de la faire ? Au médecin ou à tout autre homme de métier ? Ou n'est-ce pas uniquement à l'homme qui sait ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas et que j'appelle, moi, l'homme courageux ?
L'enjeu est ici de définir le courage ou de savoir s'il faut définir le courage pour le pratiquer. La caisse est un général. C'est un général. Personne ne sait a priori mieux que lui ce qu'est le courage. C'est un général, c'est pas un bout de feu, hein. C'est pas celui qui reste bien tranquille en arrière quand il envoie ses fantassins ou les hoplites mourir à sa place. Non. La caisse est un général vaillant. C'est un homme courageux. C'est un homme qui donc, à cet égard, est mieux placé qu'un autre pour pouvoir parler du courage. Or, et c'est l'un des enseignements de ce dialogue, il échoue à le définir, il échoue à le saisir. Et au fond, il n'en dit pas autre chose que le courage n'est pas une science, mais une sorte de fermeté d'âme. Est-ce qu'en toute rigueur, on peut dire autre chose du courage, ou est-ce qu'il faut, vous avez parlé tout à l'heure de pédagogie, d'apprentissage, d'éducation. Est-ce que l'objet de cette pédagogie, de cet apprentissage et de cette éducation, dont vous avez commencé par dire qu'elle reposait aussi sur l'exemplarité plus que sur la transmission d'un contenu, est-ce que l'objet de cette pédagogie n'est pas, justement, d'enseigner, de transmettre autant que possible, tout simplement, la fermeté d'âme, et non de donner au courage un contenu à la façon dont le fait celui qui dit que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de ne pas avoir peur de sa peur, par exemple.
Voilà, c'est-à-dire que on pourrait quand même considérer que c'est une... Certes, il échoue à définir et en même temps...
Ce qu'il en dit est imparable.
Voilà, ce qu'il en dit est imparable dans la mesure où... Là, on peut entendre que ce n'est pas une science, ce n'est pas un savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas délimité d'emblée, il n'y a pas un contenu alpha au lieu d'un contenu bêta. Mais il y a effectivement une fermeté réfléchie... Et c'est là où il y a une parenté, bien évidemment, entre le courage et la pensée. Une fermeté d'âme. Et là aussi, avant d'être physique, le courage, c'est bien évidemment cette fermeté d'âme. Et vous le trouvez d'ailleurs, c'est une des questions qui est la question majeure, si j'ose dire, des dialogues de Platon. C'est-à-dire, cette fermeté d'âme, elle va sans cesse revenir. Être un philosophe, c'est tenir la fermeté d'âme dans des situations qui précisément voudraient le déstabiliser, soit le séduire, etc., etc. Donc, de toute façon, on voit que le courage a une définition bien plus importante que celle simplement sur le champ de bataille. Mais effectivement, sur les questions de peur, la peur n'est pas antinomique du courage. Précisément, le premier contact avec le courage, c'est la peur. Il n'y a pas de courage pour celui qui n'a pas peur. Le courage, c'est pas une affaire d'intempestivité ou d'insouciance ou d'inconscience. Donc, il faut être profondément conscient. Donc, profondément également dans la prudence. Et le courage, c'est pas cette affaire de rigueur, par exemple. C'est pas le médecin. Le médecin est un tiers dans cette histoire. D'une certaine manière, c'est pas, oui, le courage de dire la vérité à cet instant-ci, mais de ne pas la subir dans son propre corps. Là, vous avez toujours le fait que le courageux est celui qui y est. Voilà. Encore une fois, il ne peut pas être le tiers. Dans le Laquais, ce qui est fantastique, c'est précisément le général qui explique que c'est une endurance de l'âme, alors qu'il pourrait totalement se masquer derrière la vaillance physique qu'il a et dire « Écoutez, les amis, moi j'y vais déjà, donc ça y est. »
Il y a une autre difficulté qui est propre au dialogue de Platon, c'est que bien souvent, qu'on y parle de vertu comme dans le Ménon, de beauté comme dans le Philèbe, de justice comme dans la République ou de courage comme dans le Laquès, il y a toujours un moment où Socrate dit « Halte là, les amis, ça fait 10 minutes, 1 heure qu'on discute et on n'a pas pris le temps de définir ce dont nous parlions. » Donc, il faut absolument reprendre tout ça à zéro et entamer la recherche de la définition de l'essence de ce qu'on évoque. Et c'est systématique chez Platon. C'est qu'il y a toujours un moment où, pédagogiquement, Platon en vient, à l'intérieur de ses dialogues, à dire « on est parti trop vite et on est parti sur un mauvais pied. Il faut commencer par définir les choses pour pouvoir ensuite en dire quelques vérités, quelques éléments de vérité, en tout cas ne pas parler en l'air. Mais pourtant, qu'il s'agisse de la vertu, de la beauté, de la justice, du courage... Quelle que soit la vertu, et je mets le mot ici entre guillemets parce qu'il n'est pas dit que le courage débouche sur le bien, en tout cas chez Platon. Toutes ces vertus, vertu, beauté, justice, courage, non, pour ne citer qu'elles, se manifestent avant même qu'on ait besoin de les définir. Chacun sait ce que c'est que la vertu, la beauté, la justice ou le courage avant même qu'on ait besoin de le définir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire là dans ce fait ? Et une contradiction qui serait avérée par le courage de Socrate lui-même, qui était un homme courageux sur le champ de bataille et en politique. On pourrait revenir là-dessus.
Je crois que c'est ce texte et tous les textes de Platon nous rappellent en fait qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Et c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire que en fait, et ça nous dit également ce qu'est l'ignorance. L'ignorance n'est pas, si vous voulez, une absence de savoir, c'est un faux savoir. Ce qui n'est pas la même chose. Donc apprendre, c'est d'abord désapprendre. Et c'est ça qui est compliqué. C'est d'abord décapé. C'est-à-dire, vous arrivez, vous pensez, et en fait, vous êtes rempli de choses. Rempli parfois de petites connaissances, de mauvaises connaissances, de préjugés, etc. Et il va falloir décaper, il va falloir désapprendre. Et c'est ça que raconte Socrate. C'est-à-dire, on est parti trop vite, on a dit, ah, mais oui, moi je sais ceci, ceci, cela. Tout le monde est rempli de savoir. Et d'abord, il faut faire ce retour à, très souvent, ce que dit Socrate, dire ne pas savoir. Et en fait, décaper, désinfatué, ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire on désenfle, quoi. Et c'est toujours douloureux parce qu'il y a aussi dans cette partie du désapprentissage, il y a aussi un affranchissement par rapport à tout ce qui nous a précédé, une forme de désappartenance, de désaffiliation, et c'est ça qu'on peut ressentir à l'école ou ailleurs. Je me souviens d'une phrase d'un professeur de danse qui disait « Mais si seulement mes élèves ne savaient pas danser quand ils arrivent pour la première fois chez moi, je ne passerais pas ma vie à enlever tous ces mauvais gestes. » Voilà, vous voyez, c'est un peu pareil dans les dialogues de Socrate.
Mais est-ce que ce décapage n'est pas tout simplement impossible en démocratie ? C'est-à-dire dans un régime qui, tout en faisant grand cas du débat, s'attache, et il faut s'en réjouir d'ailleurs, à mettre en scène les différentes opinions en les mettant sur le même plan. Si Socrate, Laquès, Nicias discutaient aujourd'hui sur un plateau télé, un animateur compétent veillerait à ce qu'ils aient le même temps de parole et empêcherait Socrate de mettre en scène la méthode dialectique qui est la sienne, au terme de laquelle il montre à celui qui croit savoir qu'en réalité il ne sait rien, et il injecte éventuellement un peu de connaissance véritable dans cette âme rendue à sa vacuité. En démocratie, c'est pas possible. Dans un régime qui doit garantir l'égale présence des opinions en place, une telle démarche, une telle dialectique, la construction d'un objet commun dans la discussion est tout simplement impossible. Est-ce que quelqu'un comme Alexis de Tocqueville, qui enseigne ce paradoxe selon lequel l'égalité débouche sur l'égoïsme, c'est-à-dire produit le repli sur soi de l'individu qui, une fois que ses droits sont garantis, se contente de dire en toutes circonstances « voilà mes droits, point barre ». Et je n'ai pas à m'engager pour les défendre, ils me sont garantis par la loi. Et cet appel que Tocqueville, dont on va entendre maintenant un texte, cet appel de Tocqueville à développer l'association dans des régimes démocratiques, c'est-à-dire à investir l'espace laissé vacant entre les gouvernants et les gouvernés, par les partis politiques, par la presse, par l'engagement sous toutes ses formes, est-ce que cette façon qu'a Tocqueville de penser le courage de l'association est une façon, en amont de Hannah Arendt, de considérer là encore ce basculement de la vie au monde qui fait qu'un individu tout simplement devient citoyen ?
Ah, la réponse est oui.
La réponse est oui, on va entendre le texte, parce que c'est important quand même. Le texte qui commence par « Je veux imaginer sous quel trait nouveau » le despotisme pourrait se produire dans le monde. C'est un texte étonnant, je précise que ce texte date de 1835 et pourtant c'est notre autoportrait.
Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur puissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il travaille volontiers à leur bonheur. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, dirige leur industrie, règle leur succession. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie, il les dirige. Il ne détruit point. Il empêche de naître. Il ne tyrannise point. Il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète. Et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger.
L'Amérique est le pays du monde où l'on a tiré le plus de parti de l'association. L'habitant des États-Unis apprend dès sa naissance qu'il faut s'appuyer sur soi-même pour lutter contre les maux et les embarras de la vie. Il ne jette sur l'autorité sociale qu'un regard défiant et inquiet et n'en appelle à son pouvoir que quand il ne peut s'en passer. Cet esprit se retrouve dans tous les actes de la vie sociale. Un embarras survient sur la voie publique, le passage est interrompu, la circulation arrêtée, les voisins s'établissent aussitôt en corps délibérant. De cette assemblée improvisée sortira un pouvoir exécutif qui remédiera au mal avant que l'idée d'une autorité préexistante à celle des intéressés se soit présentée à l'imagination de personne. Aux États-Unis, on s'associe dans des buts de sécurité publique, de commerce et d'industrie, de morale et de religion. Il n'y a rien que la volonté humaine désespère d'atteindre par l'action libre de la puissance collective des individus. Les Américains ont combattu par la liberté l'individualisme que l'égalité faisait naître et ils l'ont vaincu.
Les législateurs de l'Amérique n'ont pas cru que pour guérir une maladie si naturelle au corps social dans les temps démocratiques, il suffisait d'accorder à la nation tout entière une représentation d'elle-même. Ils ont pensé que de plus, il convenait de donner une vie politique à chaque portion du territoire afin de multiplier à l'infini pour les citoyens les occasions d'agir ensemble et de leur faire sentir tous les jours qu'ils dépendent les uns des autres. C'était se conduire avec sagesse.
Il s'agit de multiplier à l'infini pour les citoyens les occasions d'agir ensemble. Grande sagesse de cette jeune démocratie américaine dont Tocqueville reconnaît le mérite. Reste qu'il faut que l'organisation du territoire stimule en chacun l'envie de participer au pouvoir à tous les échelons, à tous les niveaux. Donc il y a véritablement chez Tocqueville, à partir de l'exemple américain, la constitution normative d'une collectivité courageuse. Et pourtant c'est le même homme, et c'est là que je veux en venir, c'est le même homme qui pense ce paradoxe qui semble un oxymore, ce paradoxe de tyrannie de la majorité, c'est-à-dire le moment où la foule, à son insu elle-même, devient normative, produit des normes et finalement ostracise, excommunie le courageux dont la parole ne convient pas à ce qu'elle a décrété comme étant convenable, justement. Donc, et on retrouve ici cette différence qu'il y a entre le démagogue et le démocrate. Comment éviter le danger de la tyrannie de la majorité tout en stimulant à l'échelle d'une société cette espèce de courage collectif par le jeu des institutions, pour rester dans les questions simples.
Oui, j'allais le dire. Donc, c'est ce que dit Tocqueville sur le conformisme. Parce qu'en fait, cette tyrannie de la majorité, c'est ce qui va mettre à mort, au sens de la mort sociale, lyncher, placardiser, répudier, bannir, etc. Parce que la mort dans l'état de droit, c'est d'abord une mort symbolique, c'est d'abord une mort sociale. On ne vous parle plus. Hein, ou alors, à chaque fois que vous prenez la parole, votre parole est dénigrée. Donc,
permettez-moi, en Amérique, c'est Tocqueville qui le dit, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, l'écrivain est libre, mais malheur à lui s'il ose en sortir. Ce n'est pas qu'il est à craindre un auto-da-fé, mais il est en butte à des dégoûts de tout genre, à des persécutions de tous les jours. La carrière politique lui est fermée. Il a offensé la seule puissance qui ait la faculté de l'ouvrir. On lui refuse tout, jusqu'à la gloire. Avant de publier ses opinions, il croyait avoir des partisans. Il lui semble qu'il n'en a plus maintenant qu'il s'est découvert à tous, car ceux qui le blâment s'expriment hautement, et ceux qui pensent comme lui, sans avoir son courage, se taisent et s'éloignent. Il cède, il plie enfin sous l'effort de chaque jour, et rentre dans le silence, comme s'il éprouvait des remords d'avoir dit vrai. C'est le sort du parésiaste.
Tout à fait. C'est le sort du parésiaste.
C'est le sort du courageux.
C'est le sort du courageux, et on voit également que c'est le dysfonctionnement, hélas, réel de la démocratie aussi, c'est-à-dire de l'état de droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans son souci d'éducation, d'apprentissage, de dire vrai aussi, elle peut tracer ce cercle autour de la pensée, et donc précisément nous empêcher de penser. C'est la caverne, c'est pas, franchement, c'est une redite de la caverne platonicienne où celui qui tente de s'extraire, malheur à lui s'il veut revenir, il sera lynché comme il se doit.
Il sera déchiré.
Alors, ça veut pas dire non plus que tous ceux, encore une fois, il faut comprendre que cette caverne aujourd'hui, c'est aussi un spectacle, c'est aussi un divertissement. Provoquer est aussi un plaire. C'est ça la difficulté, si vous voulez. C'est qu'il y a ceux qui provoquent pour plaire, et pas simplement pour déplaire.
Parce qu'il faut ici distinguer l'écrivain placardisé dont parle Tocqueville. Il y a comme ça un écrivain égyptien, par exemple, qui s'est vu refuser sa retraite par l'Association des écrivains égyptiens, tout simplement parce qu'il était allé en Israël pour faire un portrait au vitriol de la société israélienne, et on l'avait accusé de délit de normalisation. Et on lui a refusé sa retraite. Voilà, ce genre de choses arrive. Alors, comment distinguer celui-là de celui qui fait profession de politiquement incorrect ou qui, sous l'alibi du politiquement incorrect, se sert de ce vocable pour dire à peu près n'importe quoi et déplaire au maximum de gens?
Voilà, donc comment on fait?
C'est pas la même personne,
C'est pas la même personne. D'un côté, il va y avoir effectivement une posture, une mise en scène, une mascarade. De l'autre côté, il va y avoir une tentative de cohésion entre un dire, un faire. Mais généralement, là encore, il y a la vie qui précède, qui vient parler aussi un peu pour soi. Il y a la transparence des intérêts qui sont les siens et qui peut plus ou moins aussi plaider. Je dis pas le désintéressement, parce que personne n'est nécessairement dans le désintéressement, mais on est plus ou moins transparent sur les intérêts qu'on essaye de défendre. Bon, et puis il y a l'histoire commune qu'on propose. Bon, si l'enjeu, encore une fois, c'est de vous faire élire, c'est une petite histoire commune. Il y a des histoires communes un peu plus vastes que l'élection de l'un à un salaire à vie. Bon, je comprends que ça le motive, mais de fait, c'est une histoire peu commune.
L'un ou l'une.
L'un ou l'une, oui. Non, je disais l'un au sens universel. Voilà.
Bon. C'est pour ça que je dis l'un ou l'une, oui.
Tout à fait. Donc, revenons à notre cher Tocqueville. Ce qui est intéressant chez Tocqueville, c'est que c'est à la fois celui qui est profondément conscient de l'insuffisance, de la médiocrité, d'une certaine manière, de la démocratie. C'est le Churchill avant l'heure, hein. C'est-à-dire, de fait, c'est celui qui est sans complaisance aucune sur ce qu'est la démocratie et en même temps, bien évidemment, fort conscient que cette condition déceptive de la démocratie est sans doute aussi ce qui va la protéger, que de fait, de cesser de baser la démocratie sur la régulation par la vertu, mais plutôt d'en passer par la régulation par l'intérêt, la doctrine de l'intérêt, bien entendu. Nous avons tenté de dire qu'il y a une régulation par le courage. Voilà, ça protège également la démocratie. Il dit c'est la mélancolie au sein de l'abondance. Voilà, c'est un des grands premiers théoriciens du désenchantement de la démocratie. C'est l'ajournement de l'âge viril. On a parlé du despotisme doux, c'est-à-dire que c'est toujours voilà un univers de paradoxes. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est ce qui est. Quel est l'objet politique de la démocratie ? C'est l'émergence d'un sujet libre. C'est ça, hein, c'est le seul régime politique qui s'intéresse à la naissance, à l'émergence de sujets libres. Mais en même temps, bien sûr, c'est aussi le lieu d'un despotisme doux, où précisément on essaiera de tout faire pour que vous ne soyez pas trop grand, pour que vous ne soyez pas trop adulte. Donc on ajournera sans cesse aussi l'âge adulte. Et chez Tocqueville, on parle de l'âge viril, mais ça veut dire l'âge adulte. Donc sortir de la minorité, au sens de Kant, voilà. Il y a une tentative, comment on sort de la minorité chez Tocqueville, par cette association libre. C'est-à-dire tout d'un coup on rencontre d'autres petits camarades et on essaye d'inventer ce qu'est une responsabilité individuelle, une responsabilité citoyenne. On essaye de ne pas être sous la fétichisation d'une centralisation. Il a d'ailleurs une définition fantastique de la centralisation. La centralisation excelle, donc c'est une excellence, à empêcher. Voilà. Bon, donc c'est magnifique parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire une machinerie fantastique, merveilleuse, c'est une dénonciation de la bureaucratie et qui est là surtout pour que rien ne change. Bon. Donc avec Tocqueville, on a à la fois la définition de la condition déceptive et en même temps, heureusement, un chemin qui s'ouvre sur l'éducation à la citoyenneté au sens grand du terme.
Contre la désubstantialisation du langage, la parole et le dernier mot, comme il se doit, reviennent aux acteurs qui vont vous donner à entendre d'abord Jaurès, dont le courage est de souhaiter l'idéal mais de comprendre le réel, d'aller à l'idéal et de comprendre le réel, et puis Antigone qui répond à Créon dans des termes qu'incarnera Marianne Bassler. À vous la parole.
Surtout qu'on ne nous accuse point d'abaisser et d'énerver les courages. L'humanité est maudite si, pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la guerre, nuée terrible mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Car le courage est l'exaltation de l'homme. Et ceci en est l'abdication. Le courage, pour vous tous, courage de toutes les heures, c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et moral, que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces. C'est de garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du travail et de l'action. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et toi, qui restes ainsi tête baissée, avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela ?
J'avoue que je l'ai fait. Je ne nie pas l'avoir fait.
Et toi, dis-moi, sans discours, en un mot, savais-tu que j'avais officiellement interdit de faire cela ?
Oui. Comment aurait-il pu en être autrement ? C'était clair.
Et tu as osé transgresser mes lois.
Ce n'est pas Zeus qui les avait proclamées, ni la justice qui siège à côté de dieux infernaux. Ce ne sont pas ces lois qu'ils ont fixées pour les hommes. Et je ne pensais pas que tes proclamations fussent assez fortes pour permettre à un homme, à un simple mortel, de transgresser les lois non écrites et immuables des dieux. Elles ne datent ni d'aujourd'hui ni d'hier. Elles sont toujours en vigueur et nul ne sait depuis quand elles existent. Je n'allais pas, moi, céder à la crainte qu'inspire un homme, quel qu'il soit, et avoir à en répondre devant les yeux, devant les dieux. Je savais qu'il me fallait mourir. Comment l'ignorer, même si tu n'avais fait aucune proclamation ? Si je meurs avant mon heure, je dis que j'ai tout à y gagner. Quiconque est plongé dans d'innombrables malheurs durant sa vie, comment n'aurait-il rien à gagner en mourant ? Pour ma part, subir un tel sort, cela ne représente pour moi aucune souffrance. Mais si j'avais accepté qu'un enfant né de ma mère soit à sa mort privé de sépulture, c'eût été pour moi une souffrance. Ceci n'en représente aucune. S'il te semble que je commets une folie, il se peut que je sois traitée de folle par un fou.
Cette fille a déjà montré son arrogance en transgressant les lois établies, et elle a encore l'aplomb, après l'avoir fait, de s'en glorifier, de s'en réjouir.
Que veux-tu de plus que ma mort ? Je suis entre tes mains.
Rien du tout. J'ai obtenu tout ce que je voulais.
Qu'attends-tu ? Il n'est pas un seul de tes mots qui me soit agréable, et je ne souhaite pas que cela change. Et mes propos ne peuvent que t'être désagréables. D'où pourrais-je tirer une gloire plus grande que celle d'avoir enseveli mon frère dans un tombeau ? Et tous ces gens reconnaîtraient qu'ils en sont heureux si la peur ne leur clouait pas la langue.
Marianne Bassler, Georges Clès.
L'émission que vous venez d'entendre a été enregistrée sur la grande scène du Théâtre de l'Odéon le 14 mars 2015. Dans le cadre de notre série Le Pouvoir Imaginaire, une série proposée et animée par Raphaël Antoven, en partenariat avec Philosophie Magazine. Rendez-vous dimanche prochain de 16h à 17h sur France Culture pour la suite de ces réflexions politiques, avec cette fois-ci une discussion en compagnie de Florian Nicodème autour de Karl Marx et de la question redoutable de savoir comment être matérialiste et révolutionnaire à la fois. On se retrouve aussi samedi prochain, si vous le souhaitez, pour une rediffusion du Gai Savoir qui vous accompagne tout l'été, là encore, de 16h à 17h. Enfin, rendez-vous en ligne sur le site de France Culture, à la page du Pouvoir Imaginaire ou bien du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements et bibliographies. Avant de rendre l'antenne, un grand merci pour le Théâtre de l'Odéon à Marie-Hélène Boulan, Luc Bondy et toute l'équipe technique de Pascal Bramy. Pour France Culture, à Virginie Noël, Sandrine Trainer, Olivier Poivre d'Arvor, Rafik Zénine, Georges Cognier et Sébastien Huel. Merci à Alice Ramon, évidemment, et Julien Tricard, sans qui ces émissions n'auraient pas vu le jour, à notre lecteur Georges Clès, et merci à notre lectrice Marianne Bassler. Il est 17h sur France Culture. Dans quelques instants, retrouvez Une vie, une heure, Martin Kenner.
Thank you.